Restez avec nous dans Europe Soir, ça fait débat. Dans quelques instants, nous allons parler du phénomène extrêmement dangereux du rodéo urbain. Un mort hier à Marseille, il a 19 ans. Natalia Pouzirev, députée Renaissance des Yvelines, sera avec nous, ainsi que Mickaël Taverne, député Rassemblement National du Nord. Europe 1 revient dans quelques instants. A tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Le débat d'Europe Soir sur Europe 1. Nous sommes avec Natalia Pouzirev, députée Renaissance des Yvelines. Bonsoir.
Bonsoir.
Et face à elle, Mickaël Taverne, député Rassemblement National du Nord. Bonsoir.
Bonsoir.
Une nouvelle dramatique encore liée à un rodéo urbain. Un jeune de 19 ans est mort hier à Marseille. Le phénomène des rodéos urbains, cette façon de parader sur son deux roues, c'est extrêmement dangereux pour les riverains, mais aussi le conducteur. On vient de l'entendre. Natalia Pouzirev, je profite de votre présence avec nous car vous avez évalué la loi de 2018 qui sanctionne jusqu'à 5 ans d'emprisonnement les rodéos urbains. Est-ce qu'il n'y a pas des trous dans la raquette là ?
Écoutez, entre une loi qui fournit la base juridique suffisante et utile aux forces de l'ordre et son application, il y a toujours des écarts. Alors, s'il y a des trous dans la raquette du point de vue législatif, on les corrigera. D'ailleurs, on a amendé la loi en ajoutant des éléments d'intentionnalité qui peuvent renforcer la confiscation par les juges. Et on durcira, s'il le faut, cette loi. Mais c'est surtout dans la pratique qu'il faut agir. Donc là, on a un grand nombre d'opérations qui sont lancées, que je salue d'ailleurs grâce à l'action résolue de Gérald Darmanin. Et moi, je pense que voilà, il faut des opérations coup de poing. Et ensuite, il faut que la justice suive et s'empare de la base juridique qui existe déjà.
Alors, Mickaël Taverne, je le précise pour nos auditeurs, hein, vous étiez policier avant d'être élu député en juin dernier. On a un arsenal pénal suffisant aujourd'hui pour lutter contre ce phénomène qui se multiplie en fait dans toute la France, les rodéos urbains ?
Apparemment, non. Apparemment, non, puisque le phénomène s'amplifie déjà depuis quand même quelques années. Et il a fallu une nouvelle fois un drame pour avoir ces opérations coup de poing. Donc, je vous rappelle quand même que ces rodéos urbains datent déjà depuis plusieurs années. Moi, j'étais confronté à 20 ans déjà aux rodéos urbains.
Sur le terrain, dans
sur
le Nord.
Sur le terrain, dans le Nord. Et il n'avait pas, en fait, de réponse à ces rodéos. Nous étions confrontés systématiquement, en fait, au code de la route. Et il a fallu une loi en 2018 pour réprimer ces rodéos urbains, mais qui ne vont pas assez loin. En fait, cette mesure ne va pas assez loin, puisque ce phénomène s'amplifie et il a fallu encore un drame pour qu'on remette le sujet sur la table. Donc avec cette opération de communication, voilà, nous avons procédé à autant de contrôles, etc. Nous sommes dans la politique du chiffre, nous sommes dans la communication. Il a fallu un drame, une nouvelle fois, pour qu'on puisse avoir des opérations de contrôle. Mais vous savez, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur dire que les policiers n'avaient pas besoin des médias et du ministre de l'Intérieur pour faire des opérations de contrôle routier, etc. Ben, apparemment si. Puisque Gérald Darmanin est sur les plateaux de télévision.
Il est à Créteil en ce moment avec les
policiers. Oui, il est à Créteil et puis il était à Marseille, il était à Bourg-en-Bresse. Il était partout. Il nous fait du Nicolas Sarkozy. Donc voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et malheureusement, la France fait preuve de laxisme dans ce domaine depuis déjà plusieurs années.
Natalia Pouzirev, il y a quelque chose qui interpelle dans ce phénomène des rodéos à deux roues, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui s'y adonnent, qui pratiquent ces rodéos urbains, s'en vantent, en fait. Ils en font
oui,
la promotion sur les réseaux sociaux de plus en plus.
Et ce sont les réseaux sociaux qui font qu'il y a ce phénomène de recrudescence. Mais je voudrais revenir à ce qui a été dit précédemment, il n'y a aucun laxisme. Et d'ailleurs, nous, en tant que législateurs, nous avons pris notre responsabilité. Dès 2018, c'est la majorité. Ce n'est pas la droite, ce n'est pas la gauche. C'est la majorité qui a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Et l'outil législatif, d'après toutes les forces de l'ordre, il est là, il existe, et ils peuvent s'en servir. Donc après, il y a la faculté que l'on a d'interpeller ou pas les individus. Et vous imaginez bien que les forces de l'ordre, elles mettent en œuvre tous les moyens, mais que ce n'est pas si simple. Par exemple, il faut qu'elles puissent intervenir à temps pour qu'il y ait un flagrant délit. Et ça, ce n'est pas facile, puisque vous allez avoir, bien sûr, des conducteurs qui vont s'enfuir par tous les moyens. La course-poursuite, qui est souvent réclamée par des personnes qui n'ont pas étudié le dossier, eh bien, il faut savoir que même en Angleterre, ce n'est utilisé qu'à bon escient. On ne peut pas mettre en danger, prendre le risque qu'il y ait des victimes collatérales. En revanche, la police, elle le fait. Elle fait des courses-poursuites si, effectivement, les voies sont dégagées. Ce n'est pas une histoire de loi. Hein, il ne faut pas tout confondre. Ce n'est pas la loi qui interdit les poursuites. C'est une question de doctrine. Et on s'en tient au discernement des forces de l'ordre. C'est un phénomène qui est social et qu'on ne va pas pouvoir éradiquer d'un claquement de doigts. Mais je peux vous dire que tous les ans, il y a des interpellations et que l'année dernière, par exemple, sur 2021, il y a eu 1400 condamnations de justice. Donc, je dirais que la justice suit. Après, s'il y a des dispositifs à renforcer, le législateur le fera. Mais je dis bien que c'est un effort et de la coopération de tout ce qui est attendu, y compris des municipalités qui doivent s'équiper de caméras vidéo. En tout cas, aucun laxisme. Et moi, je salue qu'il y ait des opérations coup de poing, parce qu'à un moment donné, il faut taper fort. Parce que c'est un fléau, on en est tout à fait convaincus, et on ne veut pas du tout laisser croître un sentiment d'impunité, loin de là. Toutes ces incivilités, qu'elles soient graves ou moins graves, doivent être sanctionnées. L'autorité doit revenir dans les quartiers et ailleurs. On en est tous bien d'accord et on n'a pas attendu d'avoir des commentaires d'ici ou de là pour agir. Nous sommes dans l'action.
Alors, Natalia Pouzyreff faisait référence à la méthode anglaise. Les policiers britanniques ont le droit, dans certains cas, de tamponner les chauffards pour les arrêter, c'est-à-dire les faire tomber, hein, prendre le risque éventuellement de gravement les blesser, voire de les tuer. Michael Taverne, il faut aller jusque-là pour durcir le ton face au rodéo urbain?
Il faut changer de méthode, puisque même si on a créé une loi en 2018... on voit qu'elle n'est pas efficace, puisque le phénomène s'amplifie.
Oui, on l'a
donc,
dit.
Mais non, elle est moment, efficace, puisqu'il y a des endroits où le phénomène a régressé.
Non,
mais
ce n'est pas efficace
vrai,
du tout.
Je vous donne les chiffres,
comme quoi ça vous pose problème.
Ça vous pose problème, puisque je vous ai laissé parler, madame. Ça ne permet pas d'éradiquer le phénomène, on est d'accord. Mais elle est efficace là où on applique, là où on interpelle, là où la justice se fait.
Justement, le problème, c'est qu'on n'interpelle pas.
Il y a une régression des rodéos.
Le problème, justement, c'est qu'on n'interpelle pas, puisque vous le savez très certainement, c'est que des notes de service interdisent aux policiers de prendre en charge les deux roues. Voilà, ils sont confrontés à ça aujourd'hui. Donc, il faut absolument, si vous voulez, changer notre méthode. Aujourd'hui, il y a deux possibilités.
Dites-nous concrètement.
Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller au contact tactique. Voilà. Je pense qu'effectivement, il faut aller à l'interpellation.
Madame, je
ne vous ai pas interrompu, donc si vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît, ce serait bien aimable de votre part.
Natalia Pouzyreff, vous allez pouvoir vous exprimer juste après.
Merci.
J'aimerais qu'on écoute seulement Michael Taverne.
Donc, on a été confronté à ce problème déjà il y a quelques années. Aujourd'hui, il faut laisser la possibilité aux policiers d'aller interpeller. Vous savez, ce sont des professionnels. À titre personnel, je suis déjà allé à l'interpellation des deux roues. Voilà, c'est une technique qui existe. Il faut laisser aux policiers le discernement d'aller pouvoir interpeller ces individus. Voilà, c'est ce qu'on appelle un contact tactique ou alors une interception.
Discernement, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Bien évidemment, avec discernement, mais tout à fait, avec discernement, c'est pour ça que moi je parle de professionnalisme des policiers.
Absolument.
Et voilà. Et aujourd'hui, en fait, on n'a pas besoin d'opérations coup de poing. Les policiers essaient de faire leur métier du mieux possible, essayer d'endiguer ce phénomène de rodéo urbain. Mais à chaque fois, on leur met des bâtons dans les roues. Voilà. Il faut leur laisser la possibilité d'aller à l'interpellation. Utiliser des drones également. Donc, c'est une nouvelle technologie pour pouvoir suivre ces deux roues. Pourquoi ? Parce que la plupart ne sont pas immatriculées. Elles ne sont pas immatriculées, elles sont volées. Et même si on met en place une enquête, ça dure des jours, voire des semaines. Et pendant ce temps-là, les deux roues continuent de circuler. Donc, il faut changer de méthode, tout simplement.
Natalia Pouzyreff.
En fait, c'est toutes les recettes qu'il faut utiliser. Mais il n'y a pas de recette miracle, vous voyez.
Je suis d'accord.
Moi, justement, je suis d'accord qu'il faut qu'avec discernement, la police puisse agir comme il se doit lorsqu'elle elle sent qu'elle en a la possibilité. C'est ce qui se passe d'ailleurs en Grande-Bretagne. Il ne faut pas qu'il se fantasme. Vous pensez bien qu'on ne va pas faire du contact touch dès que on est dans un environnement dense. Il faut se servir des caméras installées par les villes. Il faut que les villes s'équipent. Nous avons préconisé l'expérimentation de drones aussi dans ce rapport de mission. Il faut la coopération de tous, y compris donc des bailleurs sociaux. Il faut que la population aussi puisse avertir et dénoncer les agissements. Et donc c'est la combinaison de toutes ces actions, y compris des enquêtes au long cours, qui portera ses fruits. C'est pas parce qu'on fait un contact touch une fois et que l'on arrête une personne que l'on va éradiquer le phénomène.
Mais on fait pas ça un message.
Il s'agit, mais c'est pas seulement le message. De toute
façon, c'est un rapport de force, madame. Dans les quartiers, c'est un rapport de force.
Mais moi, je suis pour qu'il y ait des actions coup de poing. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait de la masse. Parce que finalement, ces personnes-là, et la plupart sont des délinquants, on est d'accord, ne sont pas sensibles à des arguments rationnels. Donc, vous ne pouvez pas les raisonner. Donc, c'est en agissant et de façon massive et en retirant les véhicules, et d'ailleurs, toutes les motos ne sont pas volées, donc elles sont parfois louées, en remontant
90%
la traçabilité.
Ça, c'est la réalité du terrain.
Non, elles ne sont pas vraiment volées parce que parfois elles sont prêtées. Vous voyez, le propriétaire peut dire qu'on a volé le véhicule, mais non, il faut remonter la traçabilité, il faut remonter justement faire des enquêtes qui permettent de juger de l'intentionnalité du propriétaire. Est-ce qu'il avait, il s'est fait vraiment voler son véhicule, son engin, ou est-ce qu'il en a laissé la libre disposition? Et tout ça, si vous voulez, tous les faisceaux de preuves accumulés grâce aux vidéos, grâce aux images, ça permettra de retirer de la circulation ces motos, qu'elles soient immatriculées, pas immatriculées. Et nous avons renforcé notamment les obligations d'inscription pour les véhicules non homologués au registre qui s'appelle le DICEM. Et si un véhicule n'est pas enregistré au DICEM, il y a destruction immédiate. On ne parle même plus d'une immobilisation puis confiscation. Donc on a renforcé tous les dispositifs qui permettent de retirer ces véhicules du circuit. Et moi, je pense qu'il faut remonter, comme je vous le disais, à l'intention d'un loueur. Est-ce qu'il sait à qui il loue ? On a déjà rajouté dans la loi le fait que les motocross, elles sont enlevées sur des remorques ou par des camionnettes, et bien que le loueur soit obligé d'enregistrer le numéro d'immatriculation des véhicules qui viennent convoyer ces motos. Donc voilà, tous les moyens qui seront utiles doivent être employés, y compris l'enquête sur les réseaux sociaux. Et là, je serais pour qu'on renforce ça. J'ai vu que aujourd'hui, le tribunal de Marseille a prononcé une peine de prison d'un an ferme avec un an de un an de sursis contre une personne de 22 ans qui faisait la promotion des rodéos. Et la loi de 2018, d'ailleurs, prévoit 2 ans d'emprisonnement pour ceux qui sont les instigateurs et qui font la promotion des rodéos. Donc c'est un phénomène compliqué, complexe. Il n'y a pas de solution miracle et c'est avec la coopération de tous que l'on arrivera à être efficace.
Alors, Gérald Darmanin annonce à l'instant à Créteil de futures annonces de la Première Ministre. Dans les jours qui viennent, des augmentations d'effectifs de police et de gendarmerie. Michael Taverne, ça vous va, non ?
Mais vous savez, vous pouvez mettre un policier à chaque coin de rue. Si derrière, il n'y a pas une réponse pénale et une méthodologie, ça ne servira strictement à rien. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons fait preuve de laxisme pendant plus de 20 ans. Quel que soit le thème en termes sécuritaires, concernant les rodéos sauvages, concernant le terrorisme, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, à chaque fois, il faut un drame pour pouvoir prendre les mesures adéquates. Je pense qu'aujourd'hui, il faut passer un signal, il faut faire passer un message. C'est-à-dire que ces individus à deux roues doivent se dire, à partir du moment où nous avons les policiers derrière nous, nous pouvons risquer peut-être d'aller en prison et d'avoir une amende sévère et d'avoir la destruction également de notre engin à deux roues. Aujourd'hui, il faut siffler la fin de la récréation. Très sincèrement, c'est un rapport de force. Aujourd'hui, le rapport de force, nous sommes en train de le perdre. Et demain, ce sera peut-être une autre famille, ce que je ne souhaite pas, et bien évidemment, qui sera endeuillée. Donc, soit en fait, on continue, ah oui, il faut procéder à des enquêtes, etc. Oui, effectivement, on peut procéder à des enquêtes, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut privilégier le flagrant délit, et aller à l'interpellation. Il faut passer un signal fort. Vous savez, il y a 10 ans, 15 ans, à partir du moment où nous avions les policiers qui étaient déterminés, je peux vous assurer que dans le camp d'en face, ça baissait d'un ton, et généralement, voilà, quand on travaillait en brigade anticriminalité, par exemple, quand on allait au contact des deux roues, je peux vous assurer qu'à partir du moment où c'était fait avoir une fois, le message passe très vite hein, dans la cité. Hein. On arrête maintenant, on arrête de jouer et force doit rester à la loi. Voilà.
Que les voyous aient peur, la formule n'est pas de moi, c'est celle prononcée ce soir à Créteil par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, dont nous autres journalistes, nous disons beaucoup le prénom et le nom cet été. 6 déplacements depuis le début de la saison. Il s'exprime sur les rodéos urbains. Il annonce grand débat sur l'immigration au mois d'octobre au Parlement. Il parle des feux également. Il était dans le Jura cet après-midi. Il parle aussi de l'imam Iki Hussein. Il veut envoyer un signal, Natalia Pouzyreff. La priorité du gouvernement, c'est la sécurité.
C'est la sécurité, mais c'est aussi
dans une rentrée déjà chargée, à l'aube d'une rentrée déjà chargée, on va beaucoup parler de l'assurance chômage, de la réforme des retraites, du Conseil national de la refondation.
Oui, mais quand je dis la sécurité, certes, mais ce n'est pas juste un mot valise. Il s'agit de notre action inscrite dans le réel. Et c'est ce que nous avons fait depuis 2017. Nous avons, comme je vous le disais, agi. Ben si, on a réaugmenté les forces de sécurité sur le terrain. Et c'est parce que justement, ça ne va pas bien.
Stade de France, et bien on surveille dans les cités tous les jours. C'est vrai que ça a marché.
De mener une action résolue pour que, effectivement, tous les délits soient sanctionnés. On a parlé des rodéos motorisés, mais il y a d'autres incivilités. Les gens en ont marre aussi, les dépôts sauvages. Il y a beaucoup de choses qui se passent, les cambriolages. Tout doit être pris en compte et c'est pour ça qu'il faut plus de moyens, plus d'effectifs. Et c'est ce que nous faisons.
Gérald Darmanin qui, au passage, gagne aussi 4 points dans les sondages. Michael Taverne.
Écoutez, Gérald Darmanin doit se rattraper vis-à-vis du fiasco du Stade de France, par exemple. L'imam. Évidemment, Ikoussem, donc qui est originaire de mon département et juste à côté de ma circonscription. Donc oui, en fait, il fait du Nicolas Sarkozy. Voilà, il est présent partout, il fait des annonces, on remet en place la politique du chiffre, parce que je suis désolé, à partir du moment où vous imposez des contrôles, donc il a imposé 3 contrôles, c'est de la politique du chiffre. C'est ce qui a existé sur Nicolas Sarkozy et qui est toujours présente aujourd'hui d'ailleurs.
Ce phénomène
est dénoncé par les syndicats de police. Donc vous savez, il n'y a pas que moi qui critique ce phénomène, c'est également critiqué par les syndicats de police.
Si
les syndicats de police
résultat.
Disent que c'est le retour de la politique du chiffre, d'ailleurs, qui a pourri l'institution policière depuis une quinzaine d'années. Donc voilà.
C'est la politique
aujourd'hui,
du réel et
aujourd'hui,
la politique du résultat.
Non, c'est pas une politique de résultat, c'est une politique de chiffres. Voilà, le résultat, nous le connaissons très bien, c'est que malgré la loi de 2018 concernant les rodéos urbains, vous avez encore malheureusement un jeune qui s'est tué hier à Marseille. Vous avez une famille qui a été impactée justement par ces rodéos urbains. Imaginez, mettez-vous à la place, de cette mère de famille. Et aujourd'hui, c'est à Marseille, à Pontoise, il y a des habitants qui veulent porter une action justice contre l'État, c'est parce que forcément derrière, il y a une inaction de la part des gouvernements qui se sont succédé depuis 20 ans. Sinon, il n'y aurait pas d'action judiciaire contre l'État.
S'il n'y avait pas 10 000 opérations déclenchées là, ces jours-ci, qu'est-ce que vous diriez ? Puisque vous dites qu'on
mais
est dans une action.
Vous savez, les policiers font preuve d'initiative. On n'a pas besoin de coups de poing.
Il y a eu 2200 opérations de contrôle contre les rodéos urbains en une semaine.
Oui, ce sont des contrôles. Ce sont des contrôles.
Ah non, mais voilà.
Ce ne sont pas des interceptions, ce sont des contrôles. Vous savez, j'ai bien connu ça. Hein, vous savez,
en 7 jours, monsieur. Non, mais les chiffres, ils sont là, ils ont été publiés.
Oui.
Ils sont publiés, sont
justement,
disponibles.
C'est
en 7
votre
jours,
publicité, c'est les chiffres.
157 saisies. Mais ce n'est pas les chiffres, c'est du résultat. 60 000 verbalisations. Mais ouais. C'est du résultat, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, qu'on reste les bras
croisés? Avant, et, non, d'accord, non. Et avant, malheureusement, le drame de Pontoise, est-ce qu'il y avait des... justement,
oui,
il y a des contrôles,
moi, dans ma circonscription, il y en a systématiquement. Moi, j'encourage la population à prévenir la police.
Mais
la
nous
police
le font
intervient.
Pas, vous savez très bien
elle
qu'il y a
arrive.
Des représailles. Dans les banlieues, ça ne marche pas comme ça, madame.
Alors, non, mais
Nathalie,
vous ne va
pas contester vos chiffres,
ce
sont les statistiques.
Je ne
conteste
pas.
C'est
une
politique du chiffre. Ce sont, voilà. Mais il y a aussi ces chiffres révélés par le journal Le Figaro hier. 26 320 refus d'obtempérer en 2021. Ça fait un refus d'obtempérer toutes les demi-heures. Il y a aussi des phénomènes que l'on voit sur les réseaux sociaux qui interpellent. Il y a une semaine, cette rixe impliquant une cinquantaine de personnes en Seine-Saint-Denis sur la ligne du tramway 8. C'était des Algériens et des Égyptiens qui se battaient, des bandes. Ils étaient armés de barres de fer et de planches cloutées. On a vu aussi ces images terribles à la Guillotière, ces policiers en civil qui se font violemment frapper, Natalia Pouzyreff.
Oui, tout à fait, c'est inacceptable. Et ça, je veux que, effectivement, nous soyons bien d'accord entre législateurs et la population que personne ne se satisfait de cette solution-là, de cette situation-là. Et que c'est pour ça que nous sommes dans l'action. Et sur tous les fronts. Bien sûr que c'est inacceptable. Il faut remettre de l'autorité. L'autorité, là où elle n'est pas. L'autorité, quand elle a déserté certains quartiers, il faut agir en force, en masse, bien sûr. C'est pour ça que nous renforçons les moyens. Nous sommes tout à fait conscients de ça. Et moi, je ne veux pas que notre pays à la dérive. Et moi, je suis convaincue que mes autres collègues députés de la majorité n'ont pas les yeux fermés et ne sont pas dans la naïveté. Nous sommes dans l'action pour ramener l'autorité. Et le gouvernement, de même, et le gouvernement est solidaire, que ce soit Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti,
le ministre des détenus,
et la première ministre, Elisabeth Borne, sont convaincus qu'ils doivent cette action aux Français. Nous la devons aux Français, bien sûr, nous devons les protéger, nous devons assurer la tranquillité, que ce soit contre les incivilités mineures comme la délinquance majeure. C'est là notre action, tout le sens de notre action. Et donc il y a ceux qui commentent et ceux qui agissent. Et nous faisons partie de ceux qui agissent avec résolution et nous sommes bien sûr là pour ramener la sérénité. Et il n'y aura pas de relation apaisée en France si on ne trouve pas les moyens de ramener dans certains endroits plus grande tranquillité et sérénité.
Merci Natalia Pouzyreff, députée Renaissance des Yvelines. Merci Mickaël Taverne, député Rassemblement National du Nord. C'était le débat d'Europe Soir. Restez avec nous dans quelques instants. Un nouveau journal avec Wilfried de Villers. A tout de suite sur Europe 1. Le journal de la rédaction vous est présenté par Wilfried de Villers. Bonsoir Wilfried.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
Des vignes décimées par la grêle ce matin dans le Var.
En conséquence des épisodes orageux qui se poursuivent dans le sud, mais aussi sur la façade ouest de la France, en Normandie notamment, 13 départements sont toujours en vigilance orange ce soir. Gérald Darmanin à Créteil en ce moment pour faire le bilan des opérations anti-rodéo menées par la police. Vous entendrez le ministre de l'Intérieur. Les prix à la pompe sont en baisse pour la 8e semaine consécutive, le gazole a même retrouvé son niveau de février. Bonne nouvelle pour les automobilistes et encore plus avec la remise carburant. Reportage dans une station essence à suivre. Et côté sport, le cycliste colombien Nairo Quintana, disqualifié du Tour de France, il est arrivé 6e de la compétition. Sauf qu'il a été testé 2 fois positif au tramadol, substance interdite depuis 2019.
La tendance météo, Marlène Duret.
Alors, on n'en a pas tout à fait terminé avec les orages, évidemment. Ils ont tendance quand même à se résorber ce soir près de la Manche, sauf peut-être du côté de Pas-de-Calais où ils bougent assez peu. Dans le centre-est, on ne les a pas du tout vu venir. À Saint-Étienne, on a relevé par exemple 34 mm en quelques minutes. Et puis, des orages vont se produire encore demain sur la façade est, mais ils seront beaucoup moins actifs.
Merci, Marlène Duret. Météo complète vers 19h15. Orage, pluie, diluvienne et forte rafale de vent. 13 départements sont toujours en vigilance orange ce soir.
L'Hérault, le Gard, le Vaucluse, la région Rhône-Alpes aussi, mais également la Seine-Maritime avec le Calvados et la Manche. La nuit dernière et dans la matinée, certaines zones ont été violemment touchées par la grêle. Bonsoir Thibault.
Bonsoir Wilfried.
Des épisodes qui ont eu lieu dans le sud principalement.
Oui, un couloir orageux très violent s'est formé en bord de mer près de Toulon et des grêlons, parfois gros comme des balles de golf, ont tout emporté sur leur passage. Résultat, dans la commune de Lalonde, les morts, plus de 150 hectares de vignes sont partis en fumée. Julie, directrice du domaine des Bormettes, a tout perdu.
100%
20% du coup des parcelles sont touchées. C'est le ciel qui nous tombe sur la tête, quoi, littéralement parlant. Là, c'est tout le travail d'une année qui tombe à l'eau, quoi, en fait. Ça ouvre les grains d'œufs, en fait. C'est un peu comme la foudre, quoi, on va dire. Et en plus, vu la taille des grêlons, c'est vrai que c'était d'une violence assez importante. Bon, on s'apprêtait à avoir la plus... C'est vraiment, évidemment, le pire scénario qui pouvait arriver, quoi.
Alors, des dégâts agricoles dans le Var, donc, mais en Corrèze, ce sont des blessés dans le camping de Collonges-la-Rouge, près de Tulle. Un chêne s'est écrasé sur une caravane et trois tentes. Une sexagénaire a été transportée dans la nuit en urgence absolue. Et si cet après-midi, une accalmie générale a permis de réparer certains dommages, ces intempéries menacent toujours. Dans l'Hérault, par exemple, des villes comme Montarnot ou Puchabon ont relevé presque 100 mm de pluie et d'autres grosses averses pourraient provoquer des inondations.
Merci Thibaut. Autre image du jour, le vieux port de Marseille complètement inondé après des pluies diluviennes en tout début de matinée. On parle de 33 mm de précipitations tombées en une heure. C'est autant que ce qui est tombé entre le 6 mai et le 16 août dans la cité phocéenne. Marseille, toujours où un jeune homme de 19 ans s'est tué hier soir à moto. Il a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il faisait une roue arrière et a violemment heurté un poteau. Pourtant, équipé d'un casque, il est mort sur le coup.
Ce phénomène de rodéo urbain qui amplifie en France, pris très au sérieux également par le ministre de l'Intérieur.
Il a promis une multiplication des contrôles la semaine dernière. Hier, Gérald Darmanin a dressé un premier bilan des opérations, près de 3000 actions anti-rodéo menées. Et le ministre se défend de tout effet d'annonce. Il s'est exprimé ce soir à Créteil, où il a fait un point sur les actions de la préfecture de police de Paris.
Ce n'est pas une politique du chiffre, c'est l'activité des services de police et de gendarmerie. Et quand on est présent dans un quartier, dans un moment plus difficile où le règne des voyous essaye d'arriver sur le règne de la loi républicaine, il faut savoir sortir du commissariat, sortir de la gendarmerie, sortir de son ministère comme je le fais aujourd'hui et être sur le terrain pour assurer les Français. En même temps qu'on fait la lutte contre les rodéos, on fait la lutte contre les stupes. On fait la lutte contre des voitures et des motos volées. Et puis parfois, effectivement, on arrive à protéger nos concitoyens encore plus que d'habitude par une présence plus forte. Donc j'ai demandé d'intensifier ces contrôles. Vous avez vu qu'en une semaine, ces contrôles se sont largement intensifiés. Il y a eu 2200 opérations de contrôle en une semaine, ce qui montre effectivement qu'au cœur du mois d'août, on est capable de répondre à la demande d'autorité des Français.
Gérald Darmanin au micro d'Arthur Laborde, le ministre de l'Intérieur, qui enchaîne les déplacements, les prises de parole ces derniers jours sur les rodéos urbains, mais aussi concernant les incendies. Avant de se rendre à Créteil, il était dans le Jura à la mi-journée sur le front de l'incendie désormais fixé. Gérald Darmanin a confirmé que 26 personnes suspectées de pyromanie ont été interpellées depuis la mi-juillet. Et on apprend aujourd'hui que 25 procédures judiciaires sont en cours en France concernant des feux de forêt ou de champs. En Gironde et en Ille-et-Vilaine notamment.
Ça fait de moins en moins mal au portefeuille. Les prix du carburant à la pompe poursuivent leur baisse.
1,79€ le litre de diesel en moyenne cette semaine, une baisse de presque 5 centimes par rapport au début du mois, favorisée par un prix du baril de pétrole plus faible, de quoi soulager les automobilistes. Le reportage de Maximilien Carlier dans une station essence de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord.
Christian tient fermement le pistolet dans sa main. Pas besoin de faire le plein, il vient juste mettre quelques litres dans son réservoir, profiter de la baisse du prix du gazole à 1,84€ le litre.
Oui, c'est appréciable. J'ai payé jusqu'à 12 euros, passé 2 euros. Donc je fais un complément de carburant.
Car cet automobiliste craint une éventuelle hausse. Juste à côté, à la pompe, Corinne est ravie, elle qui utilise régulièrement sa voiture pour voir ses petits-enfants.
Excellente nouvelle, je trouve qu'il était temps de faire quelque chose, c'est parfait. Je suis retraitée et les retraites ne vont pas augmenter en proportion du prix de l'énergie.
Une diminution du prix de l'essence remarquée, mais insuffisante pour certains comme Anthony.
Il faudrait que ça baisse encore un peu plus. On a du mal à s'en sortir, c'est pas facile pour tout le monde. Nous on met 10 euros. Parce qu'on ne peut pas mettre plus. Il faut la voiture pour travailler. On n'a pas le choix. Il y en a qui ont le boulot à côté, tant mieux pour eux, mais nous, ce n'est pas le cas.
Et ce salarié qui fait 100 km par jour pour se rendre au travail attend avec impatience la ristourne de 30 centimes à partir du mois de septembre. Mais il sait aussi qu'elle ne sera que temporaire. Villeneuve-d'Ascq, Maximilien Carlier, Europe 1.
Pas de chance si vous comptiez rouler à l'huile de friture usagée pour faire des économies. Ce ne sera pas possible. C'était l'un des projets de loi portés par l'écologiste Julien Bayou. Il a été retoqué par le Conseil constitutionnel aujourd'hui. L'utilisation d'huiles usagées reste donc interdite en France. En bref, toujours les Britanniques confrontés à leur pire poussée inflationniste depuis 40 ans. Elle a bondi l'inflation de 10% en un an et les mois à venir s'annoncent en même encore plus sombres.
elle pourrait dépasser les 13% cet automne dans le pays alors qu'une baisse des tarifs de l'énergie se profile.
On reste de l'autre côté de la Manche avec le récit glaçant d'une des victimes présumées de Benjamin Mendy.
À la suite du procès du footballeur français au tribunal de Chester en Angleterre, il est accusé d'agression sexuelle et de viol par sept femmes. L'une d'entre elles a donc témoigné aujourd'hui par vidéo. Elle n'était pas présente au tribunal. C'est le premier témoignage du procès, Laure Van Ruymbeek.
Oui, la plaignante se tient dans le fond d'une pièce habillée en blanc, les cheveux bruns, longs, la taille fine et la jambe qui tremble alors qu'elle déroule son récit devant une policière que l'on voit également. Les 12 jurés présents dans la salle sont happés par son témoignage, comme tous les Benjamin Mendy, costume noir, dans le box des accusés. Il a l'air très concentré et ne détache pas son regard de l'écran, il se tient droit. Elle décrit une scène en particulier, nous sommes en octobre 2018, elle est au domicile du footballeur, elle explique ne lui avoir manifesté aucun intérêt. Elle prend sa douche, la porte entrouverte. Elle voit Benjamin Mendy arriver, elle met sa serviette puis veut prendre ses sous-vêtements. Le joueur en caleçon l'en empêche. La scène se déplace sur le lit, le joueur baisse son boxer et tenterait alors de la violer. Nous avons ensuite entendu l'avocate pour la première fois dans une autre vidéo préenregistrée en mai de cette année. Elle pose à la victime des questions ciblées et lui demande en particulier pourquoi elle n'a pas crié au secours et comment elle s'est sortie de cette situation, laissant entendre que Benjamin Mendy n'a finalement pas insisté plus que cela.
Laure Van Ruymbeek en direct du tribunal de Chester en Angleterre.
Certains s'en souviennent, l'affaire du sang contaminé en France. Eh bien, un scandale similaire a eu lieu au Royaume-Uni, c'était dans les années 70-80.
Des milliers de personnes contaminées par le VIH et l'hépatite C après avoir reçu des transfusions sanguines. Yasmina Katou, les victimes britanniques vont finalement être indemnisées.
Oui, d'ici la fin octobre, environ 4000 victimes recevront un premier versement de 100 000 livres, soit 119 000 euros. Les malades pourront percevoir cette indemnité, ainsi que les conjoints des victimes décédées. Les transfusions au sang contaminé par le VIH et l'hépatite C ont fait 2400 morts au Royaume-Uni, selon les estimations. Ce dédommagement, famille et malades l'attendaient depuis plusieurs années. En 2009, une première enquête avait pointé du doigt les manquements du gouvernement qui aurait dû agir plus tôt, limiter les importations des poches de sang et augmenter les réserves britanniques. Enquête qui avait abouti à la mise en place d'un système d'indemnisation des victimes, mais aucun procès n'avait été ouvert pour établir clairement les responsabilités de chacun. Ce n'est qu'en 2017 que le gouvernement décide d'ouvrir une enquête publique. C'est ce qui a permis de faire la lumière sur ce drame. L'instruction devrait aboutir l'année prochaine et des recommandations devraient être faites pour indemniser les parents et les enfants des malades.
Et Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1.
Vous les utilisez peut-être moins ces derniers temps, mais vous en avez probablement toujours chez vous, par pile, les CD. Ils fêtent leurs 40 ans aujourd'hui, Wilfried.
Le 17 août 1982, Philips et Sony mettent en vente le compact disque Ciao, le vinyle, jusqu'à l'arrivée du MP3, puis des plateformes de streaming musical, longtemps à la peine. Pourtant, le marché du disque semble faire son retour, Geoffrey Branger.
Oui, arrivé à leur plus bas historique en 2020 avec la crise sanitaire, les ventes de CD repartent à la hausse. L'an dernier, elles ont augmenté de 10% et depuis peu, Alexandre Lache, directeur général du syndicat national de l'édition phonographique, constate que pour maximiser les ventes, les artistes et les maisons de disques font de l'événementialisation autour des sorties d'albums.
Avec un produit physique particulièrement beau et qui suscite la volonté de collectionner de la part des fans, et c'est vrai dans tous les genres musicaux, mais notamment dans le rap. On l'a vu l'année dernière, le premier vendeur de CD l'année dernière, c'était un rappeur avec Orelsan.
Le rappeur normand et son équipe ont fait de la sortie de ce nouvel album un événement. D'abord, quand on l'achète, on ne sait pas à quoi va ressembler son CD. Il existe 15 designs différents, un par morceau, et pour certains, il n'y a que quelques centaines d'exemplaires, les rendant donc très rares. Et puis, dans 5 pochettes d'albums, il y avait un ticket d'or, comme dans Charlie et la chocolaterie, qui donne accès à vie à tous les concerts de l'artiste, de quoi bien sûr motiver les fans à l'acheter. Ces sorties événements se multiplient aujourd'hui dans l'industrie du disque et progressivement redynamise les ventes de CD.
On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur.
D'ailleurs, vous entendez un extrait du dernier album d'Orelsan, Jour meilleur. C'est le titre que vous entendez en ce moment.
Du cyclisme à présent, avec la disqualification, avec un peu de retard, de Nairo Quintana du dernier Tour de France.
Le Colombien avait terminé 6e de la course, mais 2 contrôles effectués pendant cette course ont révélé la présence de Tramadol. Bonsoir Gaspard de Vaubicourt.
Bonsoir.
La substance est interdite par l'Union cycliste internationale depuis 2019.
Une annonce fâcheuse pour l'équipe bretonne qui vient de prolonger son coureur colombien jusqu'en 2025. Attention tout de même à ne pas se tromper. Si le Tramadol est interdit en course, il n'est pas pour autant considéré comme du dopage. Explication avec Pascal Chanteur, le président du syndicat professionnel des coureurs cyclistes français.
C'est toujours très fâcheux en sachant que le Tramadol est un produit qui a été interdit par l'UCI il y a quelques années déjà pour préserver la santé des coureurs parce que des études démontraient que le Tramadol pouvait influer les capacités à pouvoir réagir à un danger ou autre. Donc l'UCI avait pris ces mesures en précaution de la santé des coureurs.
Déjà dans l'œil du cyclone en 2020 pour soupçon de dopage, le vainqueur du Giro 2014 va pouvoir courir à la Vuelta qui débute ce week-end. La faute à une différence de tête entre l'Union cycliste internationale et l'Agence mondiale antidopage.
C'est la réglementation qui veut cela. Encore une fois, l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, n'a pas considéré que ce médicament est un produit interdit. Mais nous, dans le cyclisme, les règles sont les règles et il faut les respecter.
Pascal Chanteur, président du syndicat professionnel des coureurs cyclistes français pour Europe 1, pris pour la première fois le Colombien, est juste disqualifié du Tour de France. En cas de récidive, Nairo Quintana risque 5 mois de suspension.
Merci Gaspard de Vaubicourt du service sport d'Europe 1.
Et l'actualité sportive, c'est également le tennis. Ce soir, hélas, Gaël Monfils, touché au talon, ne pourra pas prendre part au dernier grand chelem de la saison, l'US Open, disputé à New York la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre. Allez, la météo, Marlène Duret, encore quelques orages pour demain.
Oui, ça va se réactiver demain, Raphaël. Alors, plutôt l'après-midi, à l'est du pays, dans des proportions plus raisonnables, ponctuelles, moins actifs. Et progressivement, les départements placés en alerte orange vont repasser en jaune ce soir et cette nuit. Et c'est déjà le cas pour la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime et le Pas-de-Calais, ce qui nous fait donc 9 départements en alerte. Alors, en ce qui concerne l'Ain, le Rhône, l'Isère et la Haute-Savoie, eh bien, il faut attendre 21h pour qu'il repasse en jaune. Et puis un petit peu plus tard pour les départements près de la Méditerranée, il faut attendre minuit. Ailleurs, sur le reste du territoire, eh bien, côté Pyrénées, Massif central, après une matinée calme, le temps va tourner à l'orage par endroits. Au niveau du Pays Basque, les averses vont se succéder. Elles peuvent s'accompagner de coups de tonnerre. Et puis sur le reste du territoire, un ciel changeant, avec parfois de belles éclaircies, parfois tardives. Un risque d'averses aussi qui persiste, pas partout. Et puis en fin de journée, ce ciel qui s'assombrit sur la pointe bretonne et qui annonce l'arrivée d'un front nuageux.
Les températures en journée entre 22 et 31 degrés, Marlène.
Oui, elles vont baisser à l'est d'ailleurs. 31, ce sera du côté d'Ajaccio. Nous aurons 28 à Montpellier, 27 à Tours et à Reims. Toujours 26 à Paris. 26 également à Moulins, Strasbourg, Lille et Nantes. 25 à Toulouse et Rennes. 24 à Aix-les-Bains. 23 à Lyon et Fécamp. Et 22 pour la Mini à Cherbourg.
Merci Marlène Duret que vous retrouvez pour un nouveau point météo. Vers 22h, c'est ça Marlène?
C'est ça, à tout à l'heure.
À tout à l'heure Marlène. Quant à nous, on prend l'avion dans quelques instants. On part à des milliers de kilomètres de là. Nous allons en Polynésie, à Tahiti, où oui, il y aura bien les épreuves de surf des prochains Jeux Olympiques de Paris. À tout de suite.